France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City Sandy the House.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Au quatrième jour de guerre, on entend de puissantes explosions à Téhéran, mais aussi toujours dans les pays du Golfe, Doha, Dubaï. Il y a quelques minutes seulement, missiles, drones, frappent tous azimuts. Est-ce que la capacité militaire de l'Iran peut aussi mettre fin à cette guerre? Qu'est-ce qu'on dit de cette capacité militaire? Que doit-on dire aussi d'ailleurs de celle des Américains? Nous irons aussi ce soir voir du côté du renseignement israélien. C'est lui qui a permis la frappe opportuniste pile sur cette réunion qui a tué le guide suprême. Qui prouve encore une fois la capacité d'infiltration assez bluffante des Israéliens. Est-ce que l'Europe entre même indirectement dans ce conflit malgré elle? Frédéric Seyss nous le dira en remettant le monde à l'endroit. Malgré la guerre, le reste du monde tourne toujours, figurez-vous, mais définitivement sous les radars. C'est Erwan Chassin qui met en lumière ce qui se passe ailleurs. Nous irons notamment en Indonésie et vous verrez pourquoi. Et puis Caroline Gillet au Pays des 27, juste avant 19h, avec justement l'un des délégués de l'Union Européenne auprès des Nations Unies. Il a raconté à Caroline comment il a vécu ces derniers jours depuis son poste d'observation un peu particulier à l'ONU. Le monde est vaste, il est en guerre, on a 2 heures devant nous, soyez les bienvenus. D'abord avec vous que je voudrais commencer. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes notre spécialiste défense à la rédaction internationale. Cette guerre a démarré, on le sait, sur une histoire d'armement nucléaire, mais aussi balistique. Est-ce qu'on veut éclairer ensemble justement, Éric, c'est à quoi ressemble cet arsenal iranien? Est-ce qu'il est épuisable? Est-ce qu'il étonne au contraire le monde? Est-ce qu'à un moment, c'est même cette question-là, en fait, celle de l'arsenal, qui poserait la question de la fin de la guerre? Est-ce qu'on fait d'abord une revue de détails assez facile? Qu'est-ce qui est en train de tomber, si je puis dire, sur les cibles du Golfe en ce moment?
Alors, ce qui est en train de tomber, ce sont effectivement des missiles balistiques, mais c'est aussi des drones d'attaque donc tout le monde connaît maintenant, puisqu'il s'agit des Shahed, en fait, qui sont
c'est
des
Kerams en Ukraine,
mais qui, à l'origine, sont de conception iranienne. Les Iraniens en ont donné aux Russes au début, les Russes ont repris, c'est pas très difficile.
Ça veut les faire maintenant, oui.
Ça se fait très facilement, hein, finalement, ces drones d'attaque. Ça ressemble à une petite aile delta, ça peut faire jusqu'à 2 mètres, 2,50 mètres d'envergure. C'est propulsé par un petit moteur à hélice. Ça va pas très vite, hein, 250-300 km/h maximum, mais ça porte des charges de jusqu'à 50-75 kg d'explosifs, ce qui fait que ça fait quand même du mal quand ça tombe, par exemple, sur un réservoir d'essence ou des infrastructures d'hydrocarbures dans les pays du Golfe.
Alors, deux choses, Éric. D'abord, un, les estimations disent, alors évidemment, c'est toujours, pardon de le dire comme ça, toujours au doigt mouillé, parce qu'évidemment, qu'aucun pays n'annonce la liste de l'armement qu'il a évidemment avec lui, mais les estimations disent d'abord 2000 missiles balistiques, 1500 même qui sont prêts à toucher les bases américaines et les cibles israéliennes. Est-ce que d'abord on se dit que oui, ça a du sens ce chiffre-là?
Oui,
2000 missiles. Alors, et surtout, est-ce qu'on sait combien ont été tirés du coup?
Alors on sait parfois combien ont été tirés, c'est difficile. Chaque jour, depuis le début de cette intervention, on a des chiffres qui sont donnés par les Israéliens, par les Américains, par les Émiratis aussi, du nombre de missiles et de drones d'ailleurs qui ont été tirés sur leur territoire ou sur leur position. On est en centaines de missiles. Il faut bien préciser ce que c'est qu'un missile balistique, peut-être d'abord au début. C'est une fusée en fait. Ça part jusque dans l'espace et c'est dans l'espace que la course la plus rapide jusqu'à 24 000 km/h se déroule. Ce qui fait qu'en fait, quand vous tirez un missile, même à 2000 km, il peut être là en quelques minutes. Ce qui n'est pas le cas d'un drone. Un drone, ça vole à 250 km/h, c'est-à-dire qu'il lui faut à peu près une heure pour traverser le détroit d'Ormuz et aller frapper des cibles à Bahreïn ou au Koweït. Mais l'intérêt du drone, c'est qu'il vole très bas, sous les radars, au sens vraiment propre du terme, parfois à 15 mètres d'altitude, et qu'il est quand même beaucoup plus difficile à arrêter. Autre problème, c'est qu'effectivement, si on tire un missile anti-aérien pour détruire un drone, on tire un objet qui a coûté à peu près 1 million à fabriquer pour détruire quelque chose qui revient à peu près à entre 20 000 et 30 000 dollars ou euros pour fabriquer. Donc vous pouvez facilement saturer les choses avec ce genre d'objet.
C'est le sens de ma question. Est-ce que en ce moment, la riposte iranienne, c'est une vraie force de frappe, une force de pression permanente, ce qui peut avoir un autre sens et une autre efficacité militaire, en fait?
Bien sûr, de toute façon, l'idée c'est quand même...
Et pression permanente, ça veut dire inonder la zone, c'est ça que je veux dire.
C'est inonder la zone, c'est saturer les défenses antiaériennes, notamment d'Israël, ça c'était la chose. Alors Israël s'est préparé, en fait, Israël et l'Iran se préparent à cette guerre depuis des années. Et donc Israël a construit...
On va s'en rendre compte très vite en parlant renseignement dans une minute.
Oui, ouais. Alors Israël a construit en fait un multiple, on connaît tous Iron Dome, on en a tous entendu parler, mais en fait c'est du multicouche, c'est-à-dire que l'Iron Dome va vous arrêter, non pas des missiles, mais des roquettes qui volent relativement bas, et même jusqu'à des obus d'artillerie. Et puis au-dessus, vous avez des missiles antimissiles qui vont aller intercepter à 20 km d'altitude, à 40 km, à 100 km, et même en exo-atmosphérique, hein, le système israélien Arrow 3. Pourquoi en exo-atmosphérique ? C'est parce qu'il se disait, dès le début, si les Iraniens se dotent d'armes balistiques qui rentrent dans l'espace, enfin qui sortent de l'atmosphère et qui y rentrent après, et qu'ils y mettent une bombe atomique, il vaut mieux aller la détruire. En exo-atmosphérique, ça fera moins de dégâts. Ça en fera quand même, mais ça fera moins de dégâts que, évidemment, si une bombe nucléaire pète dans l'atmosphère.
Au moment où on se parle, Eric, est-ce que les drones se fabriquent toujours en Iran ? C'est-à-dire qu'on n'a évidemment pas cassé cette chaîne-là. Est-ce qu'on produit encore ? Est-ce qu'on produit beaucoup ?
Alors, on produisait.
Est-ce qu'on produit aussi du balistique ?
Alors, on produit toujours du balistique. On produit... Plus important peut-être que les missiles eux-mêmes, c'est les engins de lancement. Parce que ces missiles, je vous dis, ce sont des fusées. Quoi.
Qui sont évidemment visés par Israël.
Alors, et voilà, tous ces lanceurs, on appelle ça les TEL, Transport Erector Launcher, je ne me souviens plus exactement l'acronyme en anglais. Donc c'est posté sur des gros camions, c'est planqué sous des montagnes, on sort ça, on érige le missile et on le tire. Toute cette procédure prend quand même 30-35 minutes. Suffisamment de temps pour que les avions israéliens et américains puissent les repérer et éventuellement les détruire. Israël pense avoir détruit plus de la moitié des lanceurs qu'ils avaient repérés ou dont ils estimaient que l'Iran était doté. Plus de 200 en tout cas ont été touchés et certains détruits, d'autres suffisamment endommagés pour ne plus pouvoir servir. Parce qu'effectivement, quand vous n'avez pas ces lanceurs,
ça sert à rien.
Vous pouvez avoir un stock de missiles relativement important, ça ne servira pas à grand-chose.
Je vous entends, Eric, et vous allez m'arrêter si je me trompe, la stratégie iranienne, ce qu'on lit à travers ça, en tout cas, c'est un Iran qui assume l'asymétrie, puisque l'arsenal, effectivement, israélien, l'arsenal américain est supérieur, mais que, pardon de le dire comme ça, au jeu de la mouche du coche, ils ont quelque chose à jouer, en fait. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça.
C'est-à-dire harcèlement, notamment par des drones.
Oui, bien sûr, parce qu'ils veulent, leur idée, c'est d'abord de saturer les défenses antiaériennes d'Israël pour pouvoir ensuite frapper, c'est-à-dire quand vous envoyez 200 missiles, je crois que le premier jour, il y a 200 missiles balistiques qui ont été tirés sur Israël. C'est un chiffre énorme, et donc si vous devez tous les intercepter, il vous faut tirer au moins 200 missiles intercepteurs. Et en général, il faut en tirer deux pour arrêter un missile. Donc ça fait beaucoup. Donc il faut qu'il y ait du stock. À partir du moment où ce stock s'épuise, où les batteries Patriot, David Sling, Arrow 2, Arrow 3, etc., n'ont plus un nombre suffisant de missiles, l'Iran va pouvoir aller frapper directement les bases aériennes, les centres de pouvoir, le centre de Tel Aviv, l'aéroport Ben Gurion, etc. Je parle d'Israël, mais c'est exactement la même chose pour ce qui est des les Émirats Arabes Unis ont été particulièrement visés. Plus de 176 missiles ont été tirés et 687 drones d'attaque ont été tirés sur les Émirats Arabes Unis. C'est énorme.
Ce que ça veut dire, Eric, c'est que c'est l'Iran qui installe ce que les militaires appellent la guerre d'attrition, c'est-à-dire la guerre d'usure. Est-ce que c'est l'Iran qui installe ça et qui provoque une guerre qui sera longue en se disant que c'est l'usure qui finira par gagner ou pas ?
Alors,
c'est à double tranchant, hein, on est d'accord. Mais est-ce que c'est l'Iran qui installe ça ?
L'Iran se défend en attaquant, évidemment. Mais, je vais dire, c'est de bonne guerre. Tout le monde s'attendait à ça. De toute façon, les Iraniens l'avaient prévenu. Si on est attaqué, on ira attaquer en représailles les pays du Golfe et surtout ceux qui accueillent des bases américaines et évidemment Israël.
Un tout petit mot, Eric. D'abord, est-ce que ce manque d'armement et peut-être de munitions, on peut aussi le renvoyer au camp d'en face ? Parce qu'on a lu beaucoup aussi chez les Américains notamment qu'on manquait de munitions. Qu'est-ce qu'on dit de ça ?
Oui, effectivement, il y a un point d'interrogation, c'est-à-dire que sur certaines batteries, comme les batteries Patriot, très connues, les Ukrainiens en ont fait l'acquisition d'une petite douzaine. Alors, je parle des batteries, puis après, il faut les missiles, il faut pouvoir réapprovisionner. Chaque fois que vous tirez un missile, c'est un missile en moins, donc il faut les faire venir. Fabriquer un missile d'interception comme ceux des... Ça met minimum 6 ou 7 mois. Ça coûte 1 million pièces, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et donc, évidemment, au bout d'un... Alors, les Américains ont amené dans la région un certain nombre de batteries, comme les batteries TAD, pour défendre leur base. Ça n'a pas forcément complètement fonctionné. Par exemple, la base de la cinquième flotte américaine à Bahreïn a été touchée au moins à 4 fois. Là, on a des images qui le prouvent, par des missiles et par des drones d'attaque. Il y a eu quand même des dégâts, pas énormes, mais quand même des dégâts. Et puis, il est assez probable que l'Iran n'a pas lancé toutes ses forces dans la bataille. Et notamment, on peut imaginer qu'il y a quand même 30 sous-marins qui croisent normalement dans les eaux iraniennes, ou qui peuvent croiser dans les eaux iraniennes. Certains ont été détruits, ils étaient à quai. D'autres sont sous l'eau. Ceux-là ne sont pas encore intervenus, et ça va être une autre paire de manches.
Voilà, ce qui nous ramène effectivement à ce qu'on dit depuis le début, à cette guerre qui sera longue. On a du mal à imaginer ce que ça veut dire long d'ailleurs au pas. C'est vers vous que je me tourne. Yvonique de Noël, bonsoir.
Bonsoir.
Parce qu'avec vous, on va au fond parler du troisième homme. On était chez les Iraniens, on a parlé des Américains. Je voudrais qu'on se tourne vers Israël. Vous êtes historien spécialiste du renseignement. Vous avez écrit Les guerres secrètes du Mossad aux éditions Nouveau Monde. Et c'est vraiment là que vous allez nous éclairer, parce qu'il commence aussi à sortir des informations sur la profondeur, parce que ça aussi, ça fait partie de la guerre, la profondeur de l'infiltration israélienne en Iran. C'est même assez dingue, des choses qui ont été révélées par le Financial Times. Par exemple, le guide suprême est tué en une frappe, il est tué au premier jour de guerre. On a une idée là de ce que veut dire l'infiltration. Ça veut dire qu'on a regardé et qu'on a hacké les caméras des parkings, les caméras autour, les entrées, les sorties. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, notamment là-dessus?
Oui, ce que le Financial Times a sorti ce matin, c'est qu'effectivement les services israéliens ont réussi à hacker tout le système de vidéosurveillance de Téhéran. Ils disent même en rigolant, on en est venu à connaître aussi bien Téhéran que Jérusalem, rue par rue. Alors, ça leur permet notamment de surveiller les schémas récurrents, c'est-à-dire les voitures qui transportent des officiels, les gardes du corps qui sont habituellement assignés à tel ou tel officiel. Il y a également une pénétration des réseaux téléphoniques. Alors, l'ayatollah Khamenei n'utilisait pas de téléphone portable pour des raisons de sécurité, mais si les gardes du corps utilisent des téléphones portables, on peut les suivre à la trace, on peut savoir qui est de service, qui n'est pas de service. D'ailleurs, ces téléphones portables ont été brouillés dans les minutes précédant la frappe.
Mais ça veut dire qu'à ce stade, ils savent aussi, au moment de frapper, ils savent non seulement où il est, ils savent comment il y va, ils savent combien il y a de personnes derrière lui, ils savent aussi quel est le protocole de sécurité. Si d'aventure il y avait une alerte, il y a rien ne leur échappe, en fait. En tout cas, sur cette opération, rien.
Alors, ils ont une connaissance très fine de comment ça peut se passer. En revanche, la nouveauté sur cette opération-là, c'est la coopération entre le Mossad et la CIA. C'est-à-dire, jusqu'à présent, la CIA n'était pas trop dans le paysage. L'année dernière, les frappes de juin 25 s'étaient faites essentiellement grâce aux services israéliens, Aman et Mossad.
La guerre des 12 jours, oui.
Cette fois-ci, il est en train de transpirer que la CIA a joué un rôle clé, puisque la CIA a recruté visiblement une source humaine qui a, la première, annoncé que cette réunion allait avoir lieu le samedi matin. Et donc, en quelque sorte, là, la CIA est revenue dans le jeu. Alors, il faut savoir que pendant le premier mandat Trump, la CIA avait été très maltraitée par le président Trump. Et il semble que là, John Ratcliffe, le patron de la CIA, ait dit à ses troupes, bon, là, il faut qu'on fasse notre révolution et il faut qu'on se rende indispensable au président et qu'on fasse ce qu'il a envie qu'on fasse. Et donc, il y a quelques mois, ils ont mis en ligne un certain nombre de clips de recrutement en farsi, disant, en gros, vous êtes iranien, si vous êtes intelligent, vous savez que ça ne peut pas bien se finir.
Et c'est dingue, parce que c'est vraiment comme ça que ça marche.
Bien sûr.
Je veux dire, aussi ouvertement que ça. Quoi.
Des gens qui n'ont pas forcément envie de trahir au profit d'Israël peuvent se laisser convaincre que quand même, les États-Unis, un paquet d'argent, la possibilité de refaire sa vie là-bas, éventuellement des soins médicaux, tout ça pèse.
J'ai lu même, Yvonique Denoël, que c'était presque facile, j'y mets beaucoup de guillemets, hein, que c'était presque facile parce que on trouve assez facilement, finalement, dans un régime qui est détesté, et aussi des minorités opprimées, etc. Que, en gros, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est une des stratégies de la CIA, parce qu'il ne faut pas gratter si loin que ça. Est-ce que c'est vrai, ça,
bien
ou
sûr.
Pas
Alors, le Mossad a été actif en Iran, non pas en envoyant des hommes, des membres du Mossad, mais effectivement en recrutant, et notamment en recrutant parmi les minorités ethniques. Mm-hmm. Beaucoup d'opérations d'élimination de scientifiques iraniens, notamment, se sont faites grâce à des éléments recrutés de cette façon-là. Et puis, effectivement, là, la terrible répression des manifestations par le régime, plus de 30 000 morts, ça veut dire plus de 30 000 foyers dans lesquels vous avez des jeunes qui sont furieux contre le régime et qui veulent faire quelque chose.
Ça veut dire que même là, dans ce laps de temps si court entre les massacres et le début des frappes, vous dites que là, il y a eu probablement un recrutement massif ?
Il y a eu un recrutement massif. C'est-à-dire que la CIA, à la différence du Mossad, ne fait pas dans le détail. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend tout ce qui vient, même si ça coûte très cher, et on fera le tri plus tard, au besoin, on passera tout ça dans une IA pour voir ce qui est intéressant ou pas. Le Mossad ne procède pas de cette manière-là. Ils sont un peu plus sélectifs.
Ça veut dire que la CIA se dit qu'il peut y avoir du déchet, je peux mettre planter,
oui,
mais
oui,
c'est pas grave.
Oui, on s'en fout. À partir du moment où c'est une priorité, s'il faut mettre des dizaines de millions de dollars en payant quelques milliers à quelques dizaines de milliers de dollars par source, c'est pas un problème.
Ça veut dire aussi, parce qu'évidemment, j'imagine derrière qu'il y a des écoutes satellites, des stations cyber, etc. Enfin, voyez, mais ça veut dire que dans un conflit comme celui-là, et dans une relation en tout cas comme celle-là, entre Israël, l'Iran et aussi les États-Unis, le facteur humain, donc l'espionnage humain, compte quoi ? Tout autant ? C'est ça que vous dites ou pas ?
L'espionnage humain continue à rester essentiel. Effectivement, beaucoup d'agences à travers le monde ont mis le paquet sur le renseignement qu'on appelait électromagnétique, cyber, etc. Et c'est effectivement très important, notamment quand il faut analyser très très vite beaucoup de renseignements. Oui. Néanmoins, l'humain, là en l'occurrence, Ramenei ne serait probablement pas mort sans cette source humaine de la CIA.
Ouais. Il y a l'opportunité, il y a le moment, il y a eu effectivement, vous le disiez, ce qui a pu amener du monde, si j'ose dire, après les massacres du mois dernier. Mais ça raconte aussi quand même une histoire d'infiltration qui dure depuis combien de temps, en fait, qui vient combien de temps en arrière. On se dit, en lisant, y compris ce qu'on lit dans le Financial Times, c'est que l'espionnage à grande ampleur, il date même de Sharon, il date de 2001. Enfin, comme si au fond, tout ça était envisagé, imaginé de très très longue date.
Ouais. Avant 2001, l'Iran était une cible secondaire du Mossad. À partir de 2001, les dirigeants d'Israël disent régulièrement au Mossad « ça doit devenir une de vos top priorités ». L'Iran est une obsession pour Israël et en particulier pour Netanyahou depuis 25 ans. Donc aujourd'hui, cette frappe arrive non pas parce qu'il y avait une menace imminente, elle arrive parce qu'il y avait une opportunité, parce qu'également l'opinion israélienne est devenue très défiante vis-à-vis de ses responsables sécuritaires, parce qu'ils estiment qu'ils ont failli lors des attaques du 7 octobre, ils n'ont pas correctement analysé les capacités, les intentions du Hamas. Par conséquent, il y a cette idée qui est dans la tête de tout le monde de dire il faut qu'on se débarrasse du régime des Mollahs. Aujourd'hui, ils sont affaiblis. On peut le faire, donc on doit le faire. Et la force d'entraînement, ça a été la capacité de Netanyahou et du chef du Mossad et du chef d'état-major de l'armée israélienne qui ont briefé Trump et ses généraux à plusieurs reprises. Ça a été de le convaincre d'y aller ensemble parce qu'ils savaient très bien que les frappes israéliennes seules n'auraient pas du tout eu le même impact.
Mais est-ce que c'est pour ça Est-ce que c'est après ce jeu entre la CIA et le Mossad qu'on décide que c'est Israël qui va frapper le premier, par exemple ? Ça s'appelle une négociation, ça, ou pas ?
Non, c'est une répartition tacite des rôles. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en gros, les Américains préfèrent laisser les Israéliens faire des éliminations individuelles. C'est-à-dire, tout ce qui est frappe de tel ou tel responsable des passes d'Aran, dans tel immeuble, à tel étage, etc. Ça, c'est le boulot des Israéliens. Les Américains, ils font le pilonnage de masse, que ce soit sur les lance-missiles, que ce soit sur les installations nucléaires, etc.
Donc ça veut dire en ce moment, par exemple, ce qu'on voit bien, c'est ce qu'annonce Israël, qu'ils sont en train de viser l'éventuel remplaçant du guide suprême. Ça, c'est le travail d'Israël. Et ce que nous racontait Eric Biegala tout à l'heure sur les lanceurs, c'est le travail des Américains.
Exactement, parce qu'on on a quand même franchi un tabou. C'est-à-dire que même dans les années 60-70, ou même avant, il n'avait jamais été question pour les Israéliens d'assassiner un chef d'État. Mm-hmm. Je veux dire, ils n'ont jamais, ils n'ont pas essayé d'assassiner Nasser. Mm-hmm. Là, on a brisé un tabou, et les Américains préfèrent que ce soit les Israéliens qui assument ça, parce que les implications sont énormes.
Parce que ça leur fait moins peur, c'est ça que ça veut dire.
Oui, mais parce que si on commence à faire ça, ça veut dire qu'on peut le faire en retour.
Ouais,
et il faut rappeler une chose qui a pu peser dans la décision de Donald Trump d'y aller, c'est qu'en 2024, pendant la campagne présidentielle, le FBI a démantelé un complot des agents iraniens pour l'assassiner. Et ça, il n'a pas oublié. Il est très, très...
J'ai une question à l'envers, Yvonique de Noël, parce que s'il se passe ça entre Israël et l'Iran, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des infiltrations, et telles que je vous entends nous en parler, c'est des dizaines, c'est des cinquantaines, ça peut même être des centaines de personnes, ne me dites pas que ça ne marche pas aussi dans l'autre sens, non ?
Bien sûr.
Voilà. Mais du coup, de manière beaucoup moins organisée, de manière plus... Est-ce qu'ils sont moins bons en espionnage, les Iraniens, vis-à-vis des Israéliens ?
Alors, je pense qu'eux aussi, ils ont appris. Ils sont peut-être un peu plus rustiques, mais ils ont des capacités. Ils ont notamment une présence sur le sol américain.
Ouais.
Et je ne serais pas surpris que dans les semaines qui viennent, on ait des projets, voire des attentats effectifs sur le sol américain. Et ça, ça peut peser très très lourd. Parce que les Américains regardent ça de manière un peu perplexe en se disant mais c'est pas pour ça qu'on l'a élu. Mais bon, pour l'instant, il y a un certain attentisme. Mais si demain... vous avez un immeuble fédéral qui est victime d'un camion suicide. Là, ça va être une autre chanson.
Et dites donc, espion dormant aussi chez nous, c'est ça que ça dit aussi, en Europe, en France, ou pas ?
Les services européens ont régulièrement démantelé des réseaux iraniens, empêché des actions iraniennes, bien évidemment.
Yvonique de Noël, vous êtes historien spécialiste du renseignement et vous êtes passionnant. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Éric Biégala, je vous embrasse. Vous, je sens que vous reviendrez très vite. Merci beaucoup. Allez, on continue à vous éclairer sur la marche de ce monde en guerre dans la suite d'un jour dans le monde. La suite, c'est vous, Frédéric Seyss, c'est le monde à l'endroit.
L'Europe est-elle en train de se laisser entraîner dans la guerre ?
Allez, je vous le fais dans le désordre. Juste avant 19h, c'est vous, Caroline Gillet.
Oui, Quentin Veller travaille pour l'UE à l'ONU. Il raconte les événements de cette dernière semaine vus de là-bas à New York.
Et on n'oublie pas que le reste du monde tourne encore, figurez-vous. Il se passe des choses ailleurs, mais oui, Ariane Chassin, sous les radars, c'est vous.
Oui, on ira notamment aux États-Unis sur le Walk of Shame dans l'affaire Epstein.
Allez, à tout de suite, juste après ça. Thank you. Good things will come after the pressure, nous dit Salt. Et bien, c'est exactement ça dont le monde a besoin, de bonnes choses après la grosse pression. Salt est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Saïs.
Fabienne Synthèse. Le 18.
Et cette question, Frédéric, l'Europe est-elle en train de se laisser entraîner, malgré elle, dans la guerre?
C'est une mise en garde assez claire qu'a adressée l'Iran aujourd'hui au continent européen. Téhéran exhorte l'Europe à se tenir à l'écart du conflit, à éviter, je cite, tout geste de complicité avec les agresseurs, autrement dit, toute aide aux armées israéliennes et américaines. Alors pourquoi cet avertissement iranien? Eh bien, il répond à un communiqué conjoint de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni. Les trois pays se disent prêts à agir pour détruire les capacités de l'Iran à tirer des missiles et des drones, y compris à détruire ses capacités à la source, je cite, en termes simples, ça signifie potentiellement bombarder des installations sur le sol iranien et donc, de fait, entrer dans le conflit.
Alors, comment on en est arrivé là, Frédéric ?
Alors, oui, quel contraste, c'est vrai, Fabienne, avec les premières heures de la guerre. Hein, samedi, on se souvient, il y a trois jours, tout de suite, la France et le Royaume-Uni avaient fait savoir qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'opération israélo-américaine, ni impliqués, ni prévenus, avait même indiqué Emmanuel Macron. Londres, de son côté, avait précisé avoir interdit aux États-Unis d'utiliser ses bases militaires en résumé, cette guerre, ça n'est pas la nôtre. Voilà ce qu'ont expliqué à l'époque les Européens. Mais depuis, des drones attribués à l'Iran ont touché une base française aux Émirats, sans faire de blessés. D'autres drones ont atteint une base britannique sur l'île de Chypre, là encore avec de simples dégâts matériels. Voilà pourquoi l'Europe a dû hausser le ton. L'île de Chypre se trouve à moins de 400 km d'Israël et du Liban. Elle fait partie de l'Union Européenne et elle a demandé des renforts militaires. La Grèce et la France vont d'ailleurs envoyer des navires équipés de systèmes antimissiles, selon le gouvernement chypriote, une mobilisation en fait pour dissuader toute attaque sur le sol européen.
Sauf que cette réponse est loin d'être coordonnée entre les 27.
Ouais, les Européens ne veulent pas rester spectateurs, mais devenir acteurs, sauf que les acteurs, il leur faut un texte, et ce texte est bien difficile à écrire à 27 mains. La racine du problème, c'est que les points de vue sont assez divergents, depuis l'Espagne qui condamne l'attaque israélienne jusqu'à la République tchèque, qui au contraire salue cette offensive, entre les deux, la France qui ni ne condamne, ni ne soutient. Ajouter dans l'équation, la Commission européenne, la Commission qui n'a pourtant pas de compétences pour définir la politique étrangère, mais qui y va quand même de son communiqué de presse, histoire de montrer qu'elle n'est pas hors-jeu. Alors à mesure que la guerre se prolonge, les injonctions vont se multiplier, les pressions vont s'accroître sur les Européens pour qu'ils se joignent au front. D'ores et déjà, la France fait voler des rafales dans le ciel des Émirats. Londres autorise désormais les États-Unis à utiliser ses bases militaires, une forme d'entre deux, entre la neutralité et la belligérance.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Peut-être qu'on en sait plus justement s'agissant de la France dans l'allocution du président de la République qu'on attend tout à l'heure à 20h. Avant de replonger avec Caroline Gillet, je vous propose de lever le nez. Regardez comment le monde tourne ailleurs parce qu'il tourne, c'est sous les radars et c'est Erwan Chassin.
Epstein Walk of Shame at Farragut Square in Northwest D.C.
Et moi, aux États-Unis, on connaissait très bien déjà le Walk of Fame, le chemin de la gloire, les étoiles d'Hollywood Boulevard. Voilà maintenant le Jeffrey Epstein Walk of Shame à deux pas de la Maison Blanche à Washington. On marche là-dessus en silence.
Oui, ici pas de gloire, mais des mises en cause. The Walk of Shame traduisait le chemin de la honte. Des militants ou des artistes, on ne sait pas vraiment, viennent discrètement de coller sur le sol de l'une des allées du parc de Farragut Square des étoiles bleues en papier au contour doré, aligné comme sur Hollywood Boulevard. À l'intérieur, des noms souvent célèbres qui accompagnent le visage de Jeffrey Epstein. Dans chaque étoile, un QR code qui redirige vers les 3,5 millions de documents publiés par la justice américaine dans le dossier du pédocriminel. Documents dans lesquels figure le nom du président américain Donald Trump. Mais parmi ceux affichés sur le sol de cette allée, on peut citer Ghislaine Maxwell, l'ancienne complice d'Epstein, déjà condamnée, mais aussi des personnalités comme l'ex-président des États-Unis Bill Clinton. Il y a aussi ceux d'hommes d'affaires comme Bill Gates et ceux de responsables politiques dont les relations avec Epstein restent controversées. La Maison Blanche, en tout cas, n'a pas encore fait de commentaire.
Ce qu'on entend là, Erwan, c'est un extrait de journal télévisé japonais. On y parle suicide, un fléau que le pays a du mal à vaincre.
Oui, absolument, mais la situation s'améliore un peu. Le ministère de la Santé doit encore ajuster ses données dans le courant du mois. Mais 2025, c'est un petit peu mieux passé que les précédentes années. Pour la première fois depuis 1978, quand le pays a commencé à les comptabiliser, eh bien, le nombre de suicides est passé légèrement sous la barre des 20 000. C'est environ 1 200 de moins que l'année précédente. Ça paraît énorme, mais c'est à mettre en perspective avec les années 2000. Il y a 25 ans, le nombre de Japonais qui mettaient fin à leur jour a dépassé les 30 000 par an. Le ministère de la Santé analyse cette baisse par une amélioration de la conjoncture économique. Mais si le nombre de suicides d'hommes adultes baisse notamment, eh bien celui des adolescents, surtout des jeunes femmes, reste très élevé. Depuis 2019, le chiffre a grimpé de 220% chez les lycéens par exemple. Alors pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, le gouvernement japonais a mis en place il y a un petit peu plus d'un an un comité interministériel. Mais certaines associations de lutte contre le suicide dénoncent l'inefficacité des mesures déployées pour endiguer les suicides dans le pays.
Alors, je ne sais pas si on visualise, mais en tout cas des vidéos comme celle-ci, donc des touristes à dos d'éléphant, c'est terminé en Indonésie.
Ouais, le gouvernement a dit non. Depuis la fin janvier, toutes les promenades touristiques à dos d'éléphant sont interdites dans le pays. Une décision présentée comme un tournant pour le bien-être animal, puisque l'objectif c'est de mettre fin aux attractions jugées cruelles et promouvoir un tourisme plus respectueux de la faune locale. Jusqu'ici, ces balades étaient populaires, notamment à Bali. Mais derrière les photos souvenirs, les associations dénonçaient des méthodes de dressage brutales et des conditions de vie stressantes pour les animaux. Les éléphants utilisés pour le tourisme vivent souvent en captivité ou alors enchaînés. Les ONG saluent donc une mesure historique. Elles estiment que les voyageurs sont de plus en plus sensibles à la question du bien-être animal, mais le secteur du tourisme qui utilise ces éléphants s'inquiète puisqu'il craint de subir une baisse de fréquentation qui pourrait atteindre les 50%.
Erwan Chassin, merci beaucoup. Le mardi, Caroline Gillet ouvre les portes de l'Europe et parfois, elle donne pile sur la région qui nous occupe.
France Inter, le 18-20.
Voilà Caroline, dans votre tour du monde, de celles et ceux qui à Bruxelles et au-delà travaillent dans les institutions. Il y en a une donc qui est à New York, il y en a plusieurs d'ailleurs. Ils représentent l'Union à l'ONU et ces derniers mois, ils étaient aux premières loges pour observer quoi ? Observer le début de la guerre.
Oui, et parmi eux, Quentin Veller du service d'action extérieure. Il ne s'ennuie pas en ce moment, comme vous Fabienne. Il m'a envoyé des notes vocales toute cette dernière semaine, sans savoir évidemment ce qui allait se passer samedi. Eh bien, on va entendre comment lui a vécu tout ça. Mais là, on est mercredi dernier. C'est un matin comme les autres et il se rend à l'ONU.
Je viens de sortir du bureau de la mission de l'Union européenne auprès des Nations unies.
Voilà, quelques sons d'ambiance pour se mettre en jambes.
Quelques pas dans la neige.
Pour poser le décor, c'est important un décor.
Hey, how are you?
Là, je suis juste à côté du Conseil de sécurité, il y a une grande fresque, une réplique de Guernica. Dans les Nations unies, tous les pays membres offrent des œuvres d'art. C'est très old school, moquette, style des années 70-80. Dans les salles, c'est des écouteurs à l'ancienne.
L'UE à l'ONU a un poste d'observateur privilégié. Il y a aussi le siège permanent de la France et de membres élus pour 2 ans, parmi lesquels en ce moment le Danemark, la Grèce et la Lettonie. Quentin coordonne plein de réunions avec toutes ces personnes pour aligner les positions et défendre les intérêts européens en un bloc, si possible.
Je suis juste à côté de la salle de l'Assemblée Générale. C'est une salle iconique où chaque année les chefs d'État viennent faire un discours.
Au début de nos échanges, Quentin me parlait surtout de l'Ukraine. On était le 25 février, lendemain de la date anniversaire des 4 ans de la guerre à grande échelle. Et chaque année à cette date, l'Ukraine propose au vote une résolution pour un cessez-le-feu.
Donc c'est ici que mardi s'est déroulé le vote sur la résolution sur une paix durable en Ukraine. Il y a une mobilisation énorme de tous les pays européens et de l'Union européenne ici pour essayer de convaincre un maximum de pays de voter en faveur de ce texte.
Cette année, la résolution a été votée par 107 voix pour, 12 contre et 51 abstentions, dont les États-Unis.
Puisque juste avant le vote, la délégation des États-Unis a reçu des instructions de demander un vote par paragraphe plutôt que sur le texte dans son entièreté, parce qu'ils voulaient voter contre 2 paragraphes, celui qui parlait de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et d'une paix en conformité avec la Charte des Nations Unies.
Je lis que pour de nombreux pays européens, il s'agit d'éviter qu'une paix négociée sans référence explicite au droit international n'ouvre la voie à une banalisation des changements territoriaux obtenus par la force.
Nous sommes mobilisés pour contrer ce vote paragraphe par paragraphe et pour maintenir un vote sur l'entièreté du texte, ce qui a été le cas. Voilà.
Quelques jours passent, Quentin me raconte les réunions du Conseil, beaucoup de textes laborieux, et les réunions plus importantes, selon lui, qui se jouent à côté, notamment avec les Américains. Voilà ce qu'il m'envoie vendredi 27 février soir. L'attention s'est alors tournée vers l'Iran.
Il y a beaucoup de rumeurs que les Américains pourraient procéder à des frappes
sur l'Iran, il y a des négociations bilatérales en cours sur la question du programme nucléaire. Et l'Union européenne a toujours eu un rôle de négociateur sur ce dossier. Dernièrement, les Américains ont adopté une autre approche avec des frappes en juin dernier et des négociations bilatérales. Mais il y a de grandes chances, vu l'accumulation des forces militaires américaines dans la zone, qu'il y ait des frappes.
7 heures après ce message, samedi 28 matin, premières explosions tendues à Téhéran.
Je marche vers les Nations Unies. Les États-Unis et Israël ont lancé une attaque contre l'Iran au cours de la nuit. Et ce matin même, la France et d'autres membres du Conseil de sécurité, notamment Bahreïn, la Chine et la Russie, ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. L'Union européenne ne fait pas de déclaration dans cette réunion. Seuls les États de la région ont été invités à participer. Mais c'est évidemment important d'être présent, écouter ce qui se dit pour ajuster aussi la réaction de l'Union européenne.
Il est 19h samedi soir. J'avais rarement vu une salle aussi comble du Conseil de sécurité. Donc voilà, c'était la première fois que la communauté internationale et les acteurs principaux de la récente crise se parlent. La situation reste extrêmement préoccupante. Alors même que la réunion se déroulait, le président Trump a posté sur Truth Social un message pour dire que le guide suprême Khamenei était mort. Donc voilà, la situation reste très incertaine.
Ce dimanche 1er mars, message inattendu de Quentin.
J'ai la chance d'être allé au Madison Square Garden. C'est un cadeau d'anniversaire des amis pour aller voir le match des Knicks contre les Spurs et voir en particulier le basketteur français Wembanyama. C'était vraiment incroyable d'être là pour voir ça. Voilà, vous entendez le bruit derrière. C'est un vrai show à l'américaine. On est loin des news internationales. Voilà. Et juste au moment où je sors de ce match, les 27 ministres de l'Union européenne ont agréé une déclaration à 27 sur la position de l'Union européenne sur la situation au Proche-Orient, donc c'est un moment important.
Quentin me dit qu'il repart travailler, partager cette déclaration avec les partenaires à l'ONU et notamment les pays arabes de la région. Mais est-ce que dans la situation actuelle, ça ne devient pas difficile de trouver du sens à ce travail à l'ONU ?
Quand on parle de l'ONU, je pense qu'il faut faire attention à de quoi on parle. On parle en réalité de certains pays qui bloquent la capacité de l'ONU de prendre des décisions, la Russie, mais d'autres également qui ont bloqué la prise de décision. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a souvent tendance à parler des Nations Unies comme on aimerait qu'ils soient, plus que comme ils sont. C'est un organe qui nous permet à tout moment de se parler, d'une, et de deux, on l'espère, de prendre des décisions pour résoudre les crises. Et malgré tous les discours sur l'inefficacité des Nations Unies, en particulier sur la question de paix et sécurité, en partie légitime, on voit toujours des avancées dans certains domaines. Quand on pense aussi au changement climatique, aux crises internationales qui sont transfrontalières, on a besoin de ces réponses multilatérales.
Voilà, bah merci à Quentin qu'on pourra continuer à suivre ici, j'espère.
Et qui a très bien joué le jeu des notes vocales. On le remercie beaucoup, Quentin. Il n'a pas un boulot facile. Merci beaucoup, Caroline.